IDFM Radio, merci de nous rejoindre maintenant pour une émission spéciale. On va vous parler des rencontres techno. C'est un événement qui se déroule ici sur le Val-d'Oise, plus précisément à la Maison internationale de la recherche à Neuville-sur-Oise. Première édition de ces rencontres. Et nous sommes avec Jacques Pinget. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Impact CSAB.
Oui, je suis le fondateur d'Impact B. C'est une structure qui accompagne le monde universitaire et en particulier les pôles universitaires d'innovation. Celui, en tout cas, de Cergy est un pôle que j'accompagne depuis février dernier dans la création de clubs de partenaires industriels.
Nous sommes aussi avec Olivier Romain, vice-président de CY Transfer.
Oui, bonjour à tous.
Présentez-vous aussi en quelques mots.
Donc, je suis Olivier Romain, le vice-président innovation et transfert de Cergy Paris Université et aussi le coordinateur du pôle universitaire d'innovation qui s'appelle CY Transfer.
Ici, en tout cas, vous êtes dans votre élément. Il y a plein de bâtiments, justement, pour l'innovation. Et aujourd'hui, donc, cette première édition des rencontres tech, no, mais avec le mot eau, puisqu'on va parler de l'eau, des différentes filières. Qui a voulu, en tout cas, cette première édition?
Alors, c'est nous, en fait. C'est une initiative qu'on a lancée dans le cadre du pôle universitaire d'innovation. On souhaite développer, en fait, renforcer notre impact de recherche vis-à-vis du monde socio-économique et notamment, en fait, renforcer le lien qu'on peut avoir avec le tissu industriel. La filière de l'eau est une filière stratégique mondiale, nationale et régionale, bien évidemment. Et on a voulu impulser, en fait, une nouvelle structure pour pouvoir aborder ces enjeux du point de vue scientifique avec des résultats opérationnels pour nos entreprises.
On va rencontrer différents intervenants tout au long de cette émission spéciale. Quels seront un petit peu les échanges, les thématiques? En gros, ça va durer jusqu'à 19h.
Oui, plusieurs thématiques. Comme le disait Olivier, le sujet de l'eau est un sujet qui est pluriel. On a des défis à relever qui peuvent relever de, par exemple, dans une station d'assainissement, comment fait-on pour atteindre la neutralité énergétique, c'est-à-dire produire sa propre énergie à partir de cogénération et donc moins dépendre du réseau électrique, produire également des biogaz pour le chauffage urbain. On a aussi des défis du type valorisation des déchets d'une station d'assainissement. Ça, c'est un sujet. Un autre sujet va être abordé en termes de réutilisation des eaux usées traitées, la fameuse REUT, R-E-U-T. Et cette réutilisation des eaux usées traitées, elle permet pour certains industriels de réutiliser 100% de leur eau de process, donc réinjecter dans leur eau de process l'eau qui s'échappe à la sortie de l'usine. On va le voir aujourd'hui. On va également avoir le CEREMA qui va nous présenter ses expertises et son offre de services. Le CEREMA, c'est l'acteur de référence dans le domaine de l'adaptation au changement climatique pour l'État et les collectivités territoriales. Voilà donc une demi-journée assez riche de différentes thématiques autour de l'eau et de ces différents défis qui sont à la fois industriels mais également technico-scientifiques.
Les intervenants viennent principalement de l'Île-de-France ?
Complètement. Ils sont en proximité directe de l'université ou ils sont sur la région Île-de-France.
Et ils sont directement liés donc à cette première édition. Ils travaillent tous, en tout cas, dans le même secteur.
Alors, ils ne sont pas dans le même domaine, mais en fait, le dénominateur commun, c'est l'eau. Donc, ils ont un usage de l'eau, ils traitent de l'eau ou ils l'utilisent, en fait, l'eau dans leur process industriel. Ces acteurs industriels n'ont pas qu'une portée dans le 95, ils ont aussi des développements économiques internationaux. Donc pour eux, c'est un enjeu local, mais aussi un enjeu international.
Donc cette première édition, c'est important, un bon moyen aussi de déboucher, d'écouter, de s'écouter les uns et les autres aussi. Ils vont vous apporter des idées et vous-même aussi.
C'est exactement ça. On part d'une idée simple, mais qui n'est pas forcément souvent appliquée. C'est que Comme disait ma grand-mère, d'une certaine manière, résoudre un problème, c'est déjà bien le poser. Et donc bien poser un problème ensemble, c'est-à-dire entre scientifiques et industriels, mais également usagers. Alors, les usagers de l'eau sont très importants, et les collectivités territoriales, c'est-à-dire les acteurs publics, ensemble pour poser le problème. Quel est le problème? Je vais vous donner un autre exemple par rapport à ce que je vous ai donné tout à l'heure. On parle d'offre souvent, l'offre de l'eau potable par exemple. Plus on multiplie l'offre, plus on a de demande. Et donc, dans une période où on a du stress hydrique, où on a des phénomènes soit d'inondations, soit de grandes sécheresses, multiplier l'offre devient de plus en plus difficile. Et donc, un des défis consisterait à aller du côté de la gestion de la demande, qui n'est pas du tout la même chose que la gestion de l'offre. Ça, c'est aussi une question qu'il faut qu'on pose ensemble avec les acteurs de la filière et qui peuvent relever de défis scientifiques assez importants, puisque ce n'est pas simple, par exemple, de s'adresser à des agriculteurs pour leur dire qu'il faut changer leurs pratiques, puisque c'est la gestion de la demande, c'est ça, c'est y compris changer les pratiques.
Aujourd'hui, on manque d'eau, ou ça va encore? Les ressources sont assez importantes chez nous en France, même s'il faut faire très attention.
Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ce matin, en me levant, j'ai entendu le président de Suez, hein, donc c'était peut-être prémonitoire en fait à cette première rencontre, qui disait qu'aujourd'hui, en fait, les usagers pensent que les ressources sont illimitées. Et en fait, il va falloir qu'on change en fait de paradigme, de façon de penser, puisqu'en fait, ces ressources sont limitées, voire certaines ressources, on les a que pour un jour. Donc aujourd'hui, en fait, il faut qu'on change en fait notre façon d'agir, notre façon en fait de vivre vis-à-vis en fait de ce manque de ressources qui sera de moins en moins présent sur notre planète.
Et c'est quoi du coup les gestes au quotidien pour éviter de gaspiller l'eau ?
Ah ben, il y en a plein, bien sûr, on les connaît tous hein, en tant que consommateurs. Ne pas faire couler l'eau de façon trop abondante, ne serait-ce que quand on se brosse les dents, ça on connaît bien cette histoire. Simplement, quand on change d'échelle, c'est là où on intervient sur la notion de réutilisation des eaux usées traitées. Prenons un exemple et des comparaisons chiffrées. En France, on atteint 1% de réutilisation des eaux usées traitées. En Espagne, ils sont déjà à 14%. Alors évidemment, vous allez me dire, la sécheresse, le stress hydrique n'est pas le même entre l'Espagne et la France. Cependant, il y a des régions françaises qui commencent à souffrir de ces éléments-là. Et donc, les modalités hein, vers lesquelles on va se diriger sont de plus en plus des modalités de réutilisation de ces eaux usées qui vont être réinjectées. Et d'ailleurs, les grands groupes savent le faire déjà hein, dans certains pays du monde, réinjecter de l'eau usée dans les canalisations, dans les nappes phréatiques, ne serait-ce que pour remonter leur niveau. Ça, c'est des choses que les grands groupes et les industriels de la filière de l'eau savent faire. Et donc, on va de plus en plus vers ça.
Et le grand public est invité aujourd'hui ou pas, de près ou de loin, à participer à cette première édition ?
On a publié en fait ces premières rencontres sur différents médias, des réseaux sociaux, et ce sont des rencontres qui sont ouvertes à tous les publics, à nos étudiants ou des personnels extérieurs de l'université. Et on espère bien avoir d'autres publics que ceux qu'on a invités spécialement pour ces rencontres.
Eh ben, merci beaucoup à vous deux, Jacques Pinget, fondateur de Impact B, je le précise, et nous étions avec Olivier Romain, vice-président de CY Transfer, pour la première édition des Rencontres Techno, le club francilien des acteurs de la filière de l'eau et de l'assainissement. On rencontrera justement d'autres acteurs dans un instant qui ont intégré dernièrement ce club qui existe, qui est récent ou pas finalement ?
Oui, qui est tout à fait récent. Il s'est monté ces dernières semaines et nos premières rencontres matérialisent son lancement, on va dire, quasiment officiel.
Et aujourd'hui, vous accueillez notamment de nouveaux adhérents qui participent à ce club.
Alors, les adhérents fondateurs qui sont là et des adhérents futurs qui ont marqué leur grand intérêt pour nous rejoindre. Par exemple, des grandes entreprises qui ont besoin de recruter des techniciens dans le domaine de l'eau, parce que les tensions sur les métiers et sur le recrutement sont légion. Et donc, se retrouver dans le club eau, c'est aussi une manière d'être présent dans les opérations, ce qu'on appelle les actions campus, pour attirer des étudiants, des jeunes diplômés vers le monde industriel.
Merci beaucoup. Je vous laisse, puisque vous devez accueillir vos invités et vous avez pas mal de discours aussi pour cette première édition des Rencontres Techno à Neuville-sur-Oise. Bonne journée, à bientôt sur IDFM Radio. IDFM Radio, on continue à échanger sur cette première édition des rencontres autour de l'eau avec différents intervenants, différentes entreprises, les membres fondateurs aussi, parce que le CEREMA fait partie justement des membres fondateurs. Bonjour Yannick Mamandi Padjani.
Bonjour, oui effectivement, donc le CEREMA est membre fondateur du PUI de CY et donc nous participons au Club O en tant que préfigurateur du club aux côtés des autres membres fondateurs.
Rappelez-nous un petit peu, qu'est-ce que le CEREMA ?
Alors le CEREMA est un organisme public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique avec une spécificité donc qui est la double gouvernance donc partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 1000 adhérents regroupant des régions, des départements, des grandes métropoles qui participent à la gouvernance de l'établissement.
Alors, je sais pas, on l'a pas dit, hein, mais vous êtes directeur recherche et innovation internationale. C'est important quand même de le souligner. Hein. Oui. Vous avez rencontré presque le monde entier depuis que vous avez ces fonctions au sein du CEREMA.
Alors, je suis positionné sur une direction technique. Il faut savoir que le CEREMA est organisé en direction territoriale où se fait donc les projets d'expertise. Et puis, on a trois directions techniques nationales. Je suis positionné sur une de ces directions techniques qui s'occupe des risques de l'eau et de la mer. Donc sur ce périmètre-là, effectivement, j'accompagne les différents projets d'innovation.
Et vous êtes venu avec votre collègue, hein, Christine Ferret, qui est responsable du secteur activité eau. Bonjour, ça consiste en quoi exactement ? Vous êtes bien évidemment en étroite collaboration avec votre collègue, Yannick.
Bonjour, oui, tout à fait. Donc mon activité consiste à piloter, coordonner les activités eau du CEREMA, donc en lien avec nos directions territoriales notamment. Voilà, inscrire nos activités dans une programmation qui décline les orientations stratégiques de l'établissement pour l'eau, donc en ce qui me concerne. Et puis contribuer effectivement à tisser des partenariats, des collaborations avec l'ensemble des acteurs des territoires dans voilà, le contexte de l'adaptation des territoires au changement climatique. Et c'est ce qui a motivé ma présence aujourd'hui ici pour aller à la rencontre des acteurs, des partenaires, des futurs partenaires pour présenter nos activités, enfin quelques exemples de nos activités sur l'eau au CEREMA et voilà, identifier des synergies et des pistes de collaboration sans doute avec tous les participants à cette journée techno.
Comment se passe l'eau justement ? Vous la goûtez un petit peu tous les jours pour voir si elle est à bonne température, etc. Vous scrutez aussi ce qui vit dans l'eau ?
Alors au CEREMA, on s'intéresse principalement donc à la gestion durable de la ressource en eau en lien avec les usages et en lien avec l'aménagement du territoire. Donc plutôt voilà sur les aspects gestion quantitative et qualitative de l'eau, mais du point de vue des usages de l'eau et des évolutions des usages et d'une optimisation en fait de l'utilisation de l'eau dans le contexte des règlements climatiques et de tensions hydriques qui s'accentuent. La partie biologie, vie dans l'eau, c'est voilà plutôt d'autres opérateurs, d'autres partenaires qui traitent ce volet-là, même si au CEREMA. On est aussi très attaché au sujet du maintien de la biodiversité. Donc voilà, l'eau c'est la vie. Donc voilà, il y a,
oui,
y a
pas que pour nous, pour tous les êtres qui vivent sur la planète.
Tout à fait.
Et du coup, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette première édition, de ces rencontres, beaucoup d'échanges, des solutions, des partenariats? Vous en avez déjà sûrement des partenariats.
Alors pour nous, c'est l'occasion de rencontrer d'autres partenaires. Effectivement, il y a des membres fondateurs du club qui sont présents, avec qui on échange depuis quelques mois maintenant, dans cette phase de préfiguration du club. Et aujourd'hui, on rencontre également de nouveaux partenaires académiques, donc de CY, Université, de l'USPN, de Sorbonne Paris Nord, qui vont être des partenaires potentiels dans le cadre de nouveaux projets collaboratifs.
Donc là, ça va durer à peu près jusqu'à très tard. Non, je plaisante en tout cas, mais il y a actuellement des tables rondes avec des échanges aussi avec le public qui a certainement plein de questions à vous poser.
Exactement. Donc il s'agit tout d'abord de présenter au public les travaux qu'on peut mener au sein des différentes entités, membres fondateurs du club, mais aussi d'échanger pour trouver des synergies entre les différents types d'acteurs.
Et vous en êtes où justement avec vos travaux? Est-ce que vous avez d'ailleurs des résultats? C'est le but aussi aujourd'hui de donner un petit peu vos différentes avancées.
Alors aujourd'hui, on n'a pas démarré concrètement des travaux avec les partenaires du club, mais on a des choses à partager. Donc c'est ce que fera ma collègue tout à l'heure avec une présentation des activités du CEREMA dans le domaine de l'eau et des perspectives de collaboration.
Quelles sont les activités justement en ce moment?
Oui, alors voilà, on a multiples activités sur différentes modalités d'intervention en fait. Hein, donc je vais essayer de présenter un panel de travaux, que ce soit en matière de recherche et développement, développement de méthodes, d'outils d'aide à la décision. On a vocation à transférer en fait hein, les acquis de la recherche, les transformer en outils, méthodes et applicables sur le terrain en fait hein, par les acteurs des territoires. Et puis des exemples d'expertise apportée au territoire. Donc je parlerai par exemple de ce que nous développons autour de la gestion intégrée des eaux pluviales en contexte urbain, avec notamment la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour une gestion durable des eaux pluviales. Je parlerai aussi de notre approche usage de l'eau et d'une démarche et d'un outil qu'on a développé qui permet une évaluation prospective de la demande en eau pour les différents usages de l'eau à différents horizons temporels, en tenant compte de scénarios climatiques, de scénarios d'évolution des usages et des besoins en eau. Je parlerai aussi de réutilisation des eaux usées traitées avec des travaux d'accompagnement des collectivités pour des études d'opportunités de réutilisation des eaux usées traitées donc à l'échelle territoriale et du copilotage en fait hein, que nous menons CEREMA avec l'Association nationale des élus du littoral de la mesure 18 du plan eau qui vise à accélérer la réutilisation des eaux usées traitées en contexte littoral. Donc là on accompagne une quarantaine de collectivités, de projets sur les littoraux d'Hexagone et d'Outre-mer. Et puis j'évoquerai aussi nos travaux autour de la résilience des services publics d'eau et d'assainissement avec une méthode que nous avons co-développée en partenariat avec une entreprise qui est Veolia et que nous avons commencé à développer, à tester avec des collectivités pilotes et voilà, que nous proposons désormais en tant que démarche et outil pour l'ensemble des collectivités qui souhaitent une évaluation global de leurs services d'eau et d'assainissement et qui souhaitent définir une trajectoire de progrès pour une résilience accrue dans le contexte de changement climatique.
Donc de très beaux projets. Et bien sûr, ça aura un impact, ça aura un coût aussi particulier sur le quotidien des habitants.
Effectivement, enfin, je l'ai pas cité, mais on travaille aussi CEREMA comme d'autres acteurs hein, sur des actions en faveur de la sobriété pour l'eau, hein, réutiliser les eaux usées traitées, développer des solutions technologique, c'est une chose, mais avant tout, pour optimiser la ressource en eau, il faut travailler sur la sobriété. Que ce soit pour les usagers enfin, domestiques, pour les industriels, les collectivités, voilà, tout, nous sommes tous concernés. Après, sur l'impact de l'évolution des modes d'utilisation ou de réutilisation de l'eau, et effectivement, il faut intégrer dans les réflexions sur l'opportunité et la faisabilité de mettre en œuvre un certain nombre de solutions. Il faut intégrer effectivement l'ensemble des impacts, dont les impacts économiques. C'est pas la partie la plus évidente à faire, mais il faut effectivement qu'un projet soit soutenable et donc tout le travail sur le modèle économique est important. On n'est pas forcément au bout, enfin on n'est pas aujourd'hui, on n'a pas les réponses évidentes et c'est du cas par cas en fait, hein, selon les projets, selon la situation locale, le contexte local, bon, si je parle de réut, des débouchés pour les différents usages possibles sur le territoire, sur un territoire donné. Donc oui, la question de la soutenabilité économique des solutions, des nouveaux modèles est un sujet fondamental, oui.
Affaire à suivre de toute façon.
Tout à fait.
Ça, ce n'est pas en place comme ça en une journée, même si là, c'est important effectivement de rencontrer tous ces acteurs, ces partenaires et d'échanger avec beaucoup de têtes pensantes, j'ai envie de dire, pour essayer de trouver les meilleures solutions afin qu'on vive aussi dans un monde respectable.
Les questions sont nombreuses. Donc effectivement, dans le cas du Club Eau, on aura quelques verrous techniques, scientifiques à lever avec les spécificités des acteurs en présence. Mais effectivement, c'est un travail de moyen long terme avec aussi la nécessité de savoir se projeter par rapport à ce que vous disiez, c'est la rareté de la ressource, le partage de cette ressource au regard du réchauffement climatique qui pose un certain nombre de questions aussi par rapport à l'usage de l'eau.
Eh ben merci beaucoup à vous deux. Vous représentez le CEREMA, je le reprécise. Nous étions avec Yannick Mamadi Pajani, directeur recherche et innovation internationale. Et nous étions aussi avec Christine Ferrer, responsable notamment du secteur activité eau. Je vous laisse retourner au sein de l'auditorium pour échanger avec le public qui est venu pour cette première édition des rencontres techno du Club francilien des acteurs de la filière de l'eau et de l'assainissement. Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Je suis dans un étoile, mais je repense à hier. Galerie,
ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. Son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal, donc ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'avais vraiment été ta valentine.
IDFM Radio, toujours émission spéciale. Nous sommes pas très très loin dans le Ganébin. Nous sommes avec un autre intervenant qui fait partie du club francilien des acteurs de la filière de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui, nous sommes à Neuville-sur-Oise pour rencontrer quelques-uns de ses membres, membres fondateurs en plus. Nous sommes avec l'entreprise Impeccable et c'est Alpha Dio Olori qui est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, cofondateur et dirigeant donc de Impeccable. Bonjour.
Bonjour.
Merci de vous éclipser quelques minutes. Là, il y a une table ronde, en tout cas entre les membres fondateurs et puis le public qui est venu vous écouter, vous échanger, vous parler donc de cette filière de l'eau pour trouver des solutions d'ici quelques années, mais aussi des solutions sur là, tout de suite. C'est urgent aujourd'hui, en tout cas, cette question de l'eau.
Oui, tout à fait. C'est une question totalement critique. Savoir qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, l'eau est vécue comme une commodité relativement abondante par tout un chacun. Mais la vérité est que la quantité d'eau réellement disponible, non seulement pure en tout cas, est non seulement en baisse rapide depuis le début de la révolution industrielle, mais on n'entrevoit pas dans un futur immédiat, compte tenu des décisions que nous prenons en tant que communauté humaine sur cette planète, on n'entrevoit pas un avenir radieux pour cette quantité d'eau. Et déjà, les premières guerres de l'eau éclatent et un peu partout dans le monde. Et donc, il est probable que très rapidement, nous soyons, même nous qui vivons dans des hémisphères plutôt généreuses en eau libre, que nous soyons très rapidement confrontés aux conséquences de nos propres actions, et notamment pour ce qui concerne la société que je dirige, la société Impeccable, c'est l'entretien quotidien des vêtements que nous portons tous les jours, hein, vêtements qui contiennent de plus en plus de matières plastiques et donc sont les premiers émetteurs de microplastiques. Hein, pollution environnementale, les microplastiques, 30% des microplastiques qu'on trouve dans l'environnement proviennent déjà de la machine à laver qui n'a que 50 ans. Donc on peut se projeter assez rapidement dans la période à venir et imaginer ce que ça va être. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que au-delà des microplastiques, vous avez aussi tous les résidus lessiviels et tout ce qui fait que c'est l'équivalent chaque jour en France, hein, on fait tourner à peu près 20 millions de machines à laver. Et chacune de ces machines à laver, c'est entre 80 et 150 litres d'eau potable qu'on pollue. Voilà.
Impeccable, du coup, pour revenir un petit peu sur son histoire, sur son objectif, c'est une entreprise qui est basée où et qui existe depuis combien d'années ?
Alors, Impeccable, c'est le reboot d'une autre société qui s'appelait Le Lavoir Moderne, qui a été créée il y a 10 ans. Et aujourd'hui, Impeccable est incubé par un groupe qui s'appelle Géopost, qui est le premier groupe de transport français et un des plus gros groupes de transport en Europe et dans le monde. Ce qui nous permet avec Impeccable de proposer un service de collecte et d'entretien industriel des vêtements de particuliers dans la France entière. Nous avons 17 000 points relais, donc où que vous soyez dans le Val d'Oise par exemple, hein, ou auditeur d'IDFM, sachez qu'il y a un point Impeccable qui se trouve probablement très près de chez vous. Et également en collecte et livraison à domicile, d'ici je pense à la fin de l'année ou plus tard au début de l'année prochaine. Donc le consommateur aura accès au service partout, où qu'il soit. et de façon très pratique, avec des tarifs qui sont incroyablement bas, hein, mais c'est des tarifs qui sont appuyés sur un outil industriel. Donc on est de l'ordre de 15 euros par exemple pour une couette collecte et livraison incluse. Et du point de vue environnemental, et la raison de notre présence dans le Club Eau, c'est que nous travaillons en direction de solutions qui vont nous permettre de recycler à 100% les eaux de process. Et c'est un point énorme, parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, un particulier qui entretient à domicile ses textiles, c'est entre 100 et 150 litres d'eau qui vont être gaspillés à chaque fois qu'il appuie le bouton de sa machine. Nous, dans un process industriel, d'abord, tout ce linge va être regroupé, ce qui permet, puisqu'on a regroupé la pollution à un endroit unique, d'être capable de la traiter, première chose. Et ensuite, comme on dit, la meilleure pollution est celle qu'on n'aimait pas. Donc, ce que nous faisons, nous, chez Impeccable, c'est que nous travaillons sur le recyclage de cette eau. C'est-à-dire que nous faisons en sorte de pouvoir l'utiliser en circuit fermé. Donc, les réglementations et les lois sur le recyclage, l'utilisation d'eau recyclée sont en train d'évoluer et ont connu d'ailleurs une évolution majeure en 2024, pouvoir nous permettre d'utiliser ces eaux recyclées, puisque de manière assez étonnante, là où vous avez des pays comme Israël, par exemple, où il y a un autre pays qui m'échappe, je crois que c'est l'Éthiopie. Alors, on a tendance à deviner assez facilement pourquoi ce sont ces pays-là qui sont le plus intéressés, le plus concernés, mais dans un pays comme Israël, c'est 80 ou 90% d'eau recyclée. En France, on est à moins de 5% et on a une réglementation très contraignante qui nous empêchait jusqu'ici d'utiliser l'eau recyclée. Donc l'eau de recyclée en France n'est pas moins bien recyclée ni plus dangereuse que l'eau recyclée en Israël. Donc il n'y avait absolument aucune raison que la réglementation n'évolue pas. Et donc nous, en tant qu'industriels, on travaille sur le recyclage des eaux de process de blanchisserie pour faire en sorte que le textile qui nous est confié par le particulier ait zéro impact environnemental de ce point de vue.
Est-ce qu'on peut présenter aussi, parce que c'est tout récent, hein, ce club francilien des acteurs de la filière de l'eau et de l'assainissement, les quatre piliers en fait, et combien vous êtes de membres fondateurs aussi au sein de ce club ?
Alors on est, que je ne dis pas de bêtises, on est 8 membres fondateurs. Et en fait, la logique, nous en tant qu'industriels, la logique, c'est vraiment un partenariat entre la sphère publique de recherche qui a une notion de, je dirais, d'indépendance et de but non lucratif presque, hein, puisque quand on parle, nous on fait Impeccable par exemple, on fait notre offre économique pourra très bien fonctionner en polluant l'eau comme tous les autres. Donc notre objectif là, il est avant tout, c'est un souci de zéro impact qui nous conduit dans cette démarche. Et donc on apprécie d'être avec des acteurs qui ont également une mission publique et dont l'objectif n'est pas intéressé. Et de telle sorte qu'on puisse faire des travaux de recherche conjoints, qu'on puisse apporter de manière générale au marché des solutions pour le bien commun qui vont permettre à l'ensemble d'un secteur de pouvoir adopter dans des conditions économiques satisfaisantes une meilleure démarche. Donc on a effectivement défini quatre piliers qui sont d'une part la logique d'observation, hein, pour être capable de comprendre. Ensuite, la logique d'accélération. L'idée, c'est de faire des volumes, c'est que les travaux que nous menons ensemble aient de l'impact. Ensuite, la logique d'orientation et de service, c'est-à-dire bien choisir nos cibles et bien choisir des choses qu'on soit capable de déployer à l'avenir. Et enfin, une logique de complémentarité dans le sens où nous, en tant qu'industriels, on représente, on va dire, le volet opérationnel d'une politique destinée à réduire un impact environnemental et le volet académique et universitaire. Et de recherche est apporté par certains des autres partenaires. Mais on retrouve aussi le CIARP, on retrouve d'autres organismes qui ont effectivement une action quotidienne sur les questions de sécurité sanitaire et de recyclage de l'eau.
Eh bien, merci beaucoup pour ces quelques mots. Alfadio Olori, je rappelle que vous êtes cofondateur, dirigeant de l'entreprise Impeccable. À bientôt. Merci. Merci. Et très bonne journée sur IDFM Radio.
Merci à vous.
Juste retour des choses. final, mais c'est le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps, mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas, tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte qui c'est l'encre bleue, me dis que tu n'aimes que moi. Le rouge et le rouge sang, couleur des amants, mais c'est le bouquet final. C'est toujours bien de finir en beauté. Y'a le nom à père, ruban satiné. Sans vouloir jeter de fleurs, y'a mes sentiments dont j'aimais t'aimer. Et mon envie de te serrer, serrer. Tout y est, mais plus le cœur.
T'aimerais changer. Fais pas les choses à moitié, sans vouloir jeter des fleurs. Y'a comme une envie de te pardonner, de me faire pour toi belle à crever. Tout y est, mais plus le cœur.
FM Radio, nous sommes toujours dans le Val d'Oise, à Neuville-sur-Oise, plus précisément à la Maison Internationale de la Recherche. Et maintenant, nous sommes avec Lancelot Coujard, fondateur et dirigeant d'HydroK Détection. Merci d'être à notre micro maintenant pour nous parler de ce club francilien des acteurs de la filière de l'eau et de l'assainissement, et surtout de cette première édition des rencontres techno. Du coup, ce club est tout récent, puisqu'il a été créé sur cette année 2025, et vous n'avez pas forcément attendu qu'il s'y passe une année pour monter cette première édition. Il faut faire vite, en tout cas, aujourd'hui, pour parler de l'eau.
Oui, tout à fait, c'est un axe majeur. Oui, on sait qu'à l'avenir, il va y avoir des thématiques qui font que ce sujet est vraiment super important, y compris la question de la pollution et de la gestion des réserves en eau. Et donc on est très heureux d'être là à ces premières rencontres aujourd'hui.
Tout s'accélère en tout cas aujourd'hui, donc il y a urgence, on l'a dit avec les différents intervenants. Donc vous essayez aussi de trouver aujourd'hui d'autres partenaires et d'autres personnes pour rejoindre le club.
Tout à fait, ouais, on est à la recherche de synergies communes, que ce soit d'un point de vue industriel, du monde de la recherche, mais aussi du monde académique. Et du coup, oui, c'est complètement l'objet de ce club, c'est de se mettre en relation tous les acteurs de ce milieu pour développer des solutions communes et ces synergies qui nous réunissent.
Que faites-vous plus précisément au quotidien avec HydroK Détection ?
Alors nous, c'est une solution de vidéoprotection algorithmique environnementale. Donc il s'agit de caméras qui vont filmer la surface de l'eau pour y détecter automatiquement les pollutions d'origine hydrocarbures, macro-déchets, mais aussi les incendies aux abords de ces points d'eau. L'idée, c'est de collecter des données pour pouvoir avoir des statistiques et pour pouvoir vraiment générer des alertes en temps réel, mais aussi être capable de prédire de prédire ces incidents pour limiter les coûts environnementaux et financiers au maximum, voilà, limiter l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, c'est notre but.
Et où sont placés aujourd'hui principalement ces systèmes ?
Alors là, on est en train de se déployer sur pour des dispositifs expérimentaux dans des environnements portuaires, donc les ports qui sont souvent placés à l'embouchure des fleuves, des rivières. Donc c'est un endroit où les polluants se dispersent dans les mers et les océans, mais on se déploie aussi sur l'environnement offshore, fluvial et du coup aussi les stations d'épuration qui peuvent être concernées par ces incidents.
Du coup, quand vous détectez quelque chose, c'est vous qui intervenez directement ou vous faites appel à d'autres sociétés ?
Pour le moment, on n'intervient pas encore. Le but, c'est vraiment de récupérer un maximum de données pour enrichir nos modèles de détection. Et en fait, à partir de 2026, il y a une loi européenne qui va intervenir, qui va permettre l'utilisation de drones à distance sans avoir de contact visuel. Et nous, notre but, c'est évidemment d'agir. Donc là, on est dans la première phase de développement qui est vraiment la détection. Mais dans un deuxième temps, l'idée, c'est vraiment d'agir pour intervenir et récupérer ces pollutions et les empêcher de partir dans l'eau.
Vos principaux défis aujourd'hui, dans les années à venir ?
Nos principaux défis, c'est vraiment de s'entourer des partenaires qui ont des synergies communes avec nous, que ce soit dans le monde de la recherche, dans le monde industriel, mais aussi évidemment trouver une place sur le marché, puisque voilà, hein, l'environnement c'est un marché un petit peu particulier. En tout cas, nous, notre but, c'est vraiment de développer notre solution sans qu'on soit perçu comme une technologie écologique et punitive.
Du coup, quels sont un petit peu les objectifs, les propos qui sont diffusés aussi aujourd'hui?
Ben en gros, là par exemple, on vient de voir des nouveaux cas d'usage qui peuvent nous intéresser, c'est-à-dire par exemple développer des changements de turbidité dans l'eau, des phénomènes de moussage. Nous, c'est des solutions, enfin c'est des thèmes sur lesquels on peut intervenir, proposer nos solutions, notre système d'analyse d'image pour automatiser la détection de ces phénomènes, mais aussi se mettre en relation avec d'autres acteurs qui pourraient avoir d'autres capteurs qui pourraient nous permettre d'avoir un maximum de données sur ces phénomènes pour trouver d'où ça vient, mais aussi être capable d'anticiper ces phénomènes et les limiter au maximum.
Vous êtes combien à travailler au sein de Hydroca Détection ?
Pour le moment, on est deux à travailler à 100%. On est trois associés, mais en gros, là, à partir de 2027, on devrait monter à trois, voire quatre, dès que la demande de financement est terminée et que les financements sont là.
Parce que c'est tout nouveau aussi et il faut les trouver, les personnes comme vous.
Tout à fait. Et puis les clients aussi, les personnes qui ont envie de tester ces nouvelles solutions qui sont pour le moment expérimentales. Donc oui, on est vraiment au tout début et on est impatient de s'y mettre et de récupérer un maximum de données.
Merci beaucoup pour ces quelques mots, Lancelot Couchard sur IDFM Radio, fondateur et dirigeant de Hydroca Détection. À bientôt.
Merci, au revoir.
suite et fin de notre émission spéciale pour la première édition des Rencontres Techno, le club francilien des acteurs de la filière de l'eau et de l'assainissement, IDFM Radio. Nous sommes maintenant avec Nadège Lupin-Germain, hein, voilà, c'est l'intégralité de votre nom de famille, professeur des universités, ici, chez CI, Cergy Paris Université. Vous êtes venu aussi avec un autre professeur des universités, Patrick Di Martino, hein, je le cite, en tout cas c'est vous qui allez répondre à quelques-unes de nos questions. Quel est un petit peu aujourd'hui votre engagement au sein de ce club francilien dont vous êtes membre fondateur?
Je suis membre fondateur, CY Cergy Paris Université, et membre fondateur dans le cadre du PUI, et membre fondateur du Club Techno. Donc moi, je suis représentante d'une sous-structure de l'université, qui est la Graduate School CY Tech, comprenant une école d'ingénieurs, mais aussi des filières académiques de master, master pro, master recherche, et sur un périmètre qui sont les sciences expérimentales et les sciences de la modélisation. Donc à ce titre, nous avons des activités évidemment de formation, mais aussi de recherche avec des laboratoires, mathématiques, physique, chimie et biologie. Et donc dans ce cadre-là, nos laboratoires sont intéressés d'intervenir dans le club O. Ce sont des chimistes, des biologistes, et ils n'ont pas forcément une activité sur l'eau en particulier, mais ils ont des connaissances et des compétences qui peuvent accompagner des cas d'usage des autres partenaires du club eau. Et donc, à ce titre, je représente mes collègues en recherche et à la fois en formation. Il y a des connexions tout à fait possibles sur ces cas d'usage avec la formation de nos étudiants ou élèves ingénieurs, sous forme de projet, par exemple.
En ce moment, vous travaillez sur quel type de recherche ?
Alors moi, personnellement, je travaille sur des antiviraux, des molécules qui s'appellent des nucléosides antivirales, qui ont des activités antivirales et antitumorales. Donc, à ce titre...
Oula, c'est un peu compliqué, là.
Oui, à ce titre, je suis intéressée, par exemple, sur des thématiques concernant la présence de résidus médicamenteux dans l'eau, par exemple.
Donc là aussi, vous êtes venu exposer cette problématique, vos recherches en ce moment?
Alors, je suis intéressée par ce qui a été présenté par le CIARP, puisque on retrouve ces résidus-là dans l'eau, et donc je ne suis pas venue présenter à proprement parler mes résultats, mais je suis intéressée par le cas d'usage qui est présenté par le CIARP, et donc je suis intéressée d'échanger avec les personnes qui ont présenté ce problème.
Qui, eux, traitent justement les eaux et qui ont peut-être des solutions, justement.
Alors, ils observent des problèmes, et donc ce que peuvent apporter les laboratoires de recherche, c'est des solutions. Donc, soit très amont en termes de faisabilité, c'est-à-dire avec des solutions qui peuvent être encore dans le domaine de la recherche, mais les laboratoires peuvent proposer aussi des solutions plus à aval, plus en relation avec l'innovation, que ce soit par exemple sur de la détection ou du traitement des eaux.
Innovation, ça a été intégré là depuis très peu de temps finalement.
Ce sont en fait l'outil PUI, donc le programme universitaire sur l'innovation, et c'est en fait l'outil qui permet aux laboratoires de se projeter sur des problématiques d'innovation justement. Et donc le club eau, donc ce sont des activités d'innovation sur le périmètre de l'eau, et bien c'est l'occasion pour les laboratoires d'aborder des problématiques plus amont, plus proche de l'innovation.
Combien avez-vous d'étudiants actuellement?
Alors, le nombre d'étudiants est important au niveau de la graduette, hein, qui va regrouper tous les étudiants de master et de l'ingénierie, mais aussi des doctorants. Et il y a aussi représenté dans CY tous les étudiants qui sont dans l'Institut universitaire de technologique, c'est-à-dire l'IUT, avec des formations de BUT. Et il y a aussi des licences, avec des licences pro. Donc au total, à l'université, il y a 26 000 étudiants. Évidemment, tous ne sont pas intéressés par l'eau. Mais même
oui, dans différents secteurs et différentes branches, bien sûr.
Absolument, mais même dans les sciences humaines, là, on a eu un collègue qui est anthropologue, qui est intéressé sur la problématique de l'eau. Donc, vous voyez que c'est assez large et ça peut intéresser beaucoup d'étudiants, même si, d'un point de vue très personnel, les étudiants qui sont en ingénierie ou dans les masters ou les docteurs seront plus intéressés.
En tout cas, c'est très intéressant pour le grand public parce que, je le rappelais tout à l'heure aussi avec les différents intervenants, on n'est pas suffisamment encore informé ou au courant que l'eau va manquer.
Oui, c'est une ressource abondante en France. On n'a pas de souci d'eau, quoique on a des restrictions dans le sud-ouest hein, qui arrivent déjà. Mais on n'a pas le sentiment qu'il y ait un souci en termes d'accès à l'eau aujourd'hui. Ceci dit, on entend parler un peu partout. Et là, aujourd'hui, on voit en Iran, à Téhéran, la problématique de l'eau qui se pose. Mais outre le problème de l'accessibilité à l'eau, c'est aussi l'accessibilité à une bonne eau, c'est-à-dire à une eau qui soit consommable et réutilisable. Et ça, c'est un vrai problème, puisque on prend conscience maintenant, avec les outils technologiques de détection, qu'il y a une pollution de l'eau. On n'avait pas ces outils-là, et avec l'évolution des technologies, on a de plus en plus d'informations sur la qualité de l'eau. Et donc, ça nécessite hein, de rendre réponse et de trouver des moyens de dépollution, de détection et de dépollution des eaux, que ce soit d'un niveau sur le plan chimique, mais aussi sur le plan biologique.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu. Je reprécise que nous étions avec Nadège Lupin-Germain, professeur des universités, ici juste à côté, hein, CIAI, CERJI, Paris Université. Et nous étions à la première édition des Rencontres Techno, le club francilien des acteurs de la filière de l'eau et de l'assainissement. Première édition qui sera certainement renouvelée. Vous comptez vous réunir peut-être une fois par an ou pas?
Alors ça c'est la direction du PUI de décider, mais je pense que oui, une fréquence une fois par an est une bonne fréquence, mais entre-temps, sur des thématiques de recherche et d'innovation qui se dégagent là aujourd'hui, des réunions de partenaires, entre partenaires sur des thématiques bien précises vont se mettre en place à la suite de cette première journée. Donc une journée très fructueuse.
Merci encore, très bonne journée sur IDFM Radio. Merci aussi à la Maison Internationale de la Recherche à Neuville-sur-Oise qui nous accueillait pour cette première édition des Rencontres Techno. Au revoir, à bientôt.
Il faudra se dire, il faudra s'écouter. Il ne faudra pas s'enfuir, ça on l'a trop fait. Il faudra s'aimer, il faudra faire semblant. Quitte à se faire souffrir, il faudra bouffer le temps. Il faudra qu'on parte, faire tout ce qu'on s'est promis. Visiter la carte, pour voir tous les pays. Il faudra aussi que j'arrête, de tout remettre à demain. Ouvrir la boîte aux lettres, les messages, mes chagrins.
Il faudra le faire, il faudra tout tenter. Laisser sa vie derrière, sans emporter les clés. Il faudra le faire, faire tout ce qui est interdit. Quitte à risquer l'enfer, puisque demain c'est fini. Faudra que je vide la maison de ma grand-mère. Il faudra pas s'enfuir quand tout deviendra sombre. Faudra savoir tenir, poser des fleurs sur la tombe. Il faudra le faire, il faudra tout tenter. Laisser sa vie derrière, sans emporter les clés. Il faudra le faire, faire tout ce qui est interdit. Se mentir pour se protéger. Il faudra aussi parler pour avancer. Il faudra essayer. Il faudra se planter. Il faudra courir derrière le temps qui passe. Les mauvais souvenirs, il faudra qu'on les chasse. Il faudra les dompter. Il faudra tout oublier. Il faudra le faire. Il faudra tout tenter. Laisser sa vie derrière. Sans emporter les clés.
qui te risque.